Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Ancario, bonjour. Au programme cette semaine, je pense qu'on l'a peut-être fait à chaque fois, en tout cas sur les derniers, on va surtout parler du dernier jeu de Quantic Dream, parce que quand un jeu de Quantic Dream sort, d'une part il faut en parler, et d'autre part il fait parler, et c'est un objet critique. C'est un objet critique, c'est pas la moindre de ses qualités, un jeu de Quantic Dream est un objet critique, donc on va parler de Day 3, Becoming Human, et on gardera un peu de temps pour parler de Stay Safe en fin d'émission, et puis le reste vous connaissez, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, décroissant, qui nous accueille depuis déjà quelques semaines, encore merci à eux. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
On va commencer avec toi Patrick, le retour de Rocky.
Je vais vous faire une confidence les amis, en fait j'ai toujours rêvé de faire de la boxe en fait, les aléas de la vie. Voilà, on fait que j'ai jamais sauté le pas. Je suis un petit peu âgé maintenant pour me lancer. Quand un nouveau
tu
jeu.
Tu peux essayer le MMA aussi.
ouais, je pense que je tiendrai pas très longtemps. Je laisse passer mon tour. En fait, il y a une annonce, moi, d'un jeu qui m'a évidemment fait rêver il y a quelques temps déjà. C'est l'annonce d'un jeu de boxe en réalité virtuelle. Alors, déjà, c'est rien que ça, le programme fait rêver. Et quand on sait qu'il s'appelle Creed Rise to Glory, ça fait encore plus rêver. Parce qu'en fait, il va être sous licence de la nouvelle saga spin-off de la franchise mythique Rocky qui s'appelle Creed.
Mmh. C'est la suite.
Creed, évidemment, l'héritage. C'est énorme. On rappelle le film sorti début 2016 qui suivait Adonis Creed, le fils de Apollo Creed, mythique. Donc, un premier film. Un deuxième qui arrive. Moi, ça va être peut-être le film de l'année. Hein. Moi, c'est le film que j'attends le plus en ce moment. C'est Creed 2 qui arrive début 2019 en France, qui va faire revenir un des plus grands méchants de toute l'histoire du cinéma, Ivan Drago, qui va revenir. C'est énorme, énormissime. Ça va être le phénomène de début d'année prochaine. Donc voilà, ce jeu Creed, ça va être génial. Ça va être un jeu de...
T'as pas vacciné le truc de vieux actionnaire, là comment ça s'appelle?
Expandables. C'est pas la même chose.
C'est pas affiné, Expandables, dans le côté genre on assume totalement notre côté testostérone.
Là,
justement, on revient sur...
Il y a un moment, la nostalgie, ça va, non?
Non, moi, je trouve que c'est... Non, le premier Creed était vraiment un excellent film que j'avais adoré, qui était vraiment... qui questionnait tout le mythe de Rocky, le passage à une nouvelle génération. Donc le nouveau film arrive donc très prochainement, puis donc ce jeu va sortir entre les deux, hein. Il est prévu sur fin 2018 en réalité virtuelle, donc PlayStation VR, HTC et Oculus. Il y a quelques visuels, quelques vidéos qui ont été publiées, ça a l'air pas mal visuellement. Je trouve qu'il est il a un look pas photoréaliste, plutôt entre le cartoon et le réaliste. Je trouve qu'ils ont une sorte de compromis plutôt intéressant. C'est un studio qui a déjà développé des jeux de sport qui ont eu plutôt une bonne presse, donc visiblement les attentes sont plutôt positives. On sait déjà que sur la version Sony, il y aura une exclue où on pourra a priori jouer le jeune Rocky, une version du jeune Rocky, donc ça s'annonce... Ça s'annonce plutôt pas mal, a priori donc basé sur un scénario qui ferait la liaison entre les deux films Creed. Moi, j'espère que quelques semaines de la sortie du deuxième, on aura peut-être des clins d'œil sur le nouveau film, sur les fameux personnages dont je parlais qui reviennent, et ça fait clairement rêver. Donc en tout cas, un jeu de boxe en réalité virtuelle. Je sais qu'il y en a déjà qui existent, hein, que j'ai pas essayé, mais moi ça me fait rêver. Et puis dans cet environnement, encore une fois, aller voir les visuels, ça fait vraiment envie. Et on va essayer ça fin 2018. Et puis c'est bien d'avoir des contenus en réalité virtuelle. On est friands. Une news qu'on n'a pas pu passer la semaine dernière, parce qu'on n'était pas là, donc on va en parler maintenant parce que c'est une news importante. On l'espérait, il y avait eu des rumeurs et Resident Evil 7 arrive bien sur Switch.
Mais
mais. Alors ça, c'était la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est important parce que c'est quand même un des jeux, moi, qui m'a marqué depuis les dernières années. Enfin, voilà, un reboot... une relance vraiment intéressante de la saga.
VR en plus, alors ton cœur était tout de suite
ça m'a emporté, conquis, ça m'a, comme tu peux le comprendre, voilà, ça m'a parlé directement. Donc voilà, évidemment, on est arrivé sur Switch, ça parle. Alors le petit détail quand même, c'est que pour l'instant, cette version ne parle qu'au japonais, ça sort uniquement sur le marché japonais, et puis c'est quand même sous-titré Cloud Edition. Alors voilà, c'est là où est le hic, c'est que uniquement pour le marché japonais et c'est uniquement une version en cloud. C'est-à-dire qu'il faut, on télécharge a priori un petit soft client de 40 mégas et puis il faut être tout le temps connecté pour pouvoir jouer. En fait, la console stream les datas des serveurs
pour l'aspect
de chez
mobile,
Capcom.
C'est un peu mort. Quoi.
Alors déjà, voilà, ça nous
dans
prive.
Dans le métro, le cloud, ça marche pas. Génial. Nous...
Sauf au Japon.
Ouais, mais
c'est
alors,
pour ça,
c'est pour
je
ça
pense que
c'est pour ça
qu'ils sont
uniquement au Japon.
C'est vrai qu'au Japon, je pense qu'ils ont une infrastructure mobile beaucoup plus dense que chez nous.
Il ouais. n'y a pas de 4G sur la Switch.
Ah non. Ah non, non, il faut se relier tout de suite au
à la rigueur, réseau. Bah ouais, à la rigueur, si vraiment tu alors, veux, si vraiment tu veux jouer
mais...
en mobilité, tu le fous sur ton téléphone, mais bon.
Non, mais je pense
que c'est pas fait pour.
C'est pas fait pour, c'est vraiment pour jouer même en mobile, mais chez soi, pas loin de sa box. C'est pas très pratique. Alors ça, c'est un des points problématiques. Donc je pense que c'était aussi peut-être pour lier une faiblesse hardware de la console. Est-ce qu'elle pouvait faire tenir Resident Evil 7 de façon correcte? C'est la vraie question. Est-ce que Capcom ne tente pas des expérimentations comme ça avec le cloud pour dire on va pouvoir faire passer des jeux un peu plus costauds, un peu plus solides sur une console à peu limite? Voilà, le cloud peut être, le stream comme ça peut être une solution. Et puis surtout, autre information importante, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, c'est que cette version est en location. C'est-à-dire que le business model c'est qu'on paye, on paye 2000 yens, une quinzaine d'euros à peu près, 15-20 euros je crois, et on achète le jeu pour 180 jours. Voilà,
ouais,
donc sur 6 mois.
Mais en même temps, c'était à s'y attendre parce que déjà, même si on s'achetait un droit indéfini à pouvoir jouer au jeu, bah, le jour où Capcom arrête le service, techniquement, le jeu s'arrête de fonctionner
aussi.
C'est ce
qui nous prend en nez. Puis ça rejoint ce que je vous disais sur le Game Pass, hein, que j'avais essayé, j'en avais parlé il y a quelques semaines. On va vers un rapport différent à nos jeux vidéo avec ce phénomène de location. Alors, il y a un avantage, c'est que c'est moins cher. C'est vrai que tu peux jouer à Resident Evil 7 sur Switch pour pas trop cher. Après, la question, c'est ton mode de consommation. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien relancer un jeu un an, deux ans. Il y a des jeux, des fois que j'ai pas fini, que j'aime bien relancer trois ans après. Ça m'arrive d'en lancer des jeux bien plus tard ou même par goût de m'y replonger. Et là, bah, on est sur de la location. C'est-à-dire que six mois après, bah, c'est fini. Ou alors, il faut repayer une licence, etc. Ça va poser un rapport complètement différent au jeu. Alors, il y a des bons côtés. Là, en plus, on va avoir cette question du cloud qui fait qu'on a un rapport aussi plus ancré sur un endroit. Sur quand même une Switch dont l'intérêt, c'est de pouvoir l'embarquer un week-end. Là, ça va être quand même beaucoup plus dur de pouvoir jouer à Resident Evil 7 comme ça
en week-end et d'embarquer. Et c'est aussi un abonnement sur un jeu. C'est-à-dire que les services de streaming, on est quand même sur des abonnements avec une bibliothèque de jeux. Là, c'est un abonnement sur un jeu, c'est étrange. Mais
encore une fois, ça fait une clé d'entrée un peu moins chère. Tout n'est pas acheté. Moi, je trouve ça intéressant. La question se pose. Rapport différent
C'est un drôle de mélange entre opportunisme, expérimentation.
Ah bah là, c'est clairement de l'expérimentation. Et je pense que ça peut être aussi.
C'est clairement de l'opportunisme aussi. Il faut le sortir sur Switch parce que la Switch fonctionne.
C'est un jeu intéressant. Ça sort qu'au Japon, donc c'est clairement expérimental. Après, je pense que ça posera la question de la Switch.
Parce qu'on n'a pas les moyens ici de le faire fonctionner.
C'est plus ni aux États-Unis pour l'instant.
Sachant que ça multiplie les coûts pour l'installer ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut que Capcom ait les serveurs qui tiennent le coup chaque pays où ils veulent le sortir.
Donc si c'est pour que ça marche que pour les mecs qui ont la fibre, laisse tomber.
J'ai lu des testeurs en France qui l'ont essayé, ça marche pas bien parce que évidemment c'est pas fait pour.
Avec le ping japonais, ça va être compliqué.
Certaines mauvaises langues disent Resident Evil 7 FPS.
Ça pose pas mal de questions. Et puis,
ce que tu dis sur la location de jeu, en réalité, c'est une question qui est transversale et qu'on oublie régulièrement. Mais moi, des fois, je me réveille en sueur la nuit en me disant « Et si Valve faisait faillite demain ?»
Ah bah oui, non mais bien
et
sûr.
Et si Valve faisait faillite demain,
je suis complètement d'accord.
Qu'est-ce qu'il advient de
tous
nos
jeux, toute ta bibliothèque, toute ta vie depuis des années.
Je vous demande juste de réfléchir à ça.
Et en même temps, et je vais conclure rapidement là-dessus, c'est la Switch, on sait que le hardware est quand même juste. Ça peut être aussi le cloud, un moyen de la prolonger à long terme, parce qu'on sait que Nintendo veut la tenir a priori très longtemps, plus longtemps qu'une génération de consoles traditionnelles. Le cloud peut être une solution parmi d'autres.
Je rappelle que ça ne marche pas. Enfin bon, bref, on jugera.
Écoute, encore une fois, c'est uniquement pour le Japon. On regarde ça de loin, on verra si c'est proposé en Europe et on testera en temps voulu.
Corentin.
Oui, alors moi, je vais parler de l'annonce. Alors, à l'heure où on enregistre, c'était il y a deux jours, de Pokémon Company, qui a tenu une conférence de presse avec Nintendo à Tokyo, pour annoncer des nouvelles des petits monstres, des poches. Et en l'occurrence, deux nouveaux jeux annoncés sur Switch. Donc, un premier, Pokémon Quest, qui est déjà sorti. Mais en fait, il est sorti au moment où il a été annoncé. Il s'agit d'un petit free-to-play. Il est déjà disponible sur Switch, mais il faudra attendre juin pour la sortie iOS et Android. Donc, c'est une espèce de petit action RPG, ce qu'on appelle un tapper, c'est-à-dire, vous savez, vous avez que des cooldowns, vous contrôlez pas votre personnage réellement, mais vous contrôlez que les attaques qu'il va lancer pendant les combats. Il choisit lui-même les personnages qui attaquent, donc c'est un jeu un petit peu, on va dire, peu d'interactivité, mais plutôt d'addiction à base de d'accumuler des ressources, collectionner les Pokémon et tout ça. Du peu que j'ai essayé, ça pisse pas très loin, mais c'est gratuit, donc bon, essayez, puis peut-être que ça vous plaira. Sinon, ouais, au bout de 10 minutes, les petites mécaniques de free-to-play un peu cracra commencent déjà à se faire connaître. Bonjour, t'as envie d'acheter un petit DLC parce que le jeu, voilà, il est free to start, hein, c'est comme ça que les appelle Nintendo. Donc, il faut payer pour les finir, a priori, je ne sais pas. Bref, donc ça, c'est sorti déjà. C'est le premier jeu, c'était un petit peu l'annonce surprise, on s'y attendait pas trop. Les Pokémon sont cubiques aussi dans le style. L'autre annonce, alors celle-là, par contre, elle avait fuité dans tous les sens depuis plus d'un mois déjà. C'est Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee qui va sortir sur Switch le 16 novembre prochain. Et alors là, on est plus sur un jeu traditionnel de Pokémon, donc on incarne un jeune dresseur ou une jeune dresseuse qui part avec son Pikachu ou son Evoli à la conquête du monde de Pokémon, hein, d'une certaine manière, mais la différence, c'est que là, on est vraiment sur un jeu hybride entre ce que les Pokémon proposaient d'un point de vue des RPG classiques, donc tout ce qui est X et Y, Soleil, Lune, tout ce qui est sorti récemment sur 3DS, et Pokémon Go, puisqu'on se rend compte dans ce jeu-là que malgré, en apparence, ça ressemble à un jeu Pokémon classique, mais par exemple, il n'y a plus de combat contre les Pokémon sauvages, et on les capture comme dans Pokémon Go, donc uniquement en jetant ses Pokéballs. Il y a quand même des combats contre les dresseurs, les images qui ont été montrées dans le trailer montrent bien qu'il y a le choix des 4 attaques, on n'est pas sur le même système de combat qu'il y a dans Pokémon Go, qui est nul, quoi. Voilà, on est quand même sur un jeu qui est hybride, hein, qui est là pour capter le public de Pokémon Go, pour essayer de les rapprocher un peu de la série principale, ou alors trouver peut-être créer une nouvelle série au centre, entre les deux, justement, le complètement occasionnel et le complètement hardcore, où on compte ses statistiques et tout ça. Mais c'est intéressant de voir cette nouvelle voie prise. Alors, je vous avoue que je suis pas la cible, hein. Je pense pas être la cible. D'autant qu'il y a, par exemple, ça a été précisé qu'il y aura pas de mode multi-online.
Ce qui est étonnant. Ça aurait pu être un raccord.
Et pour moi, alors par contre, il y a des synergies avec Pokémon Go, je vais y arriver. Mais pour moi, s'il y a pas de mode multi-online pour se combattre les uns les autres, ça veut dire qu'il y a pas du tout de combat entre joueurs. Donc, ça prouve vraiment qu'on est plus sur une expérience vraiment très solo, vraiment introductive au jeu Pokémon, ou pour ramener les gens qui ont joué il y a très longtemps, mais qui ont plus envie de se replonger dedans parce que c'est devenu trop compliqué. Voilà, mais ça reste intéressant. Par contre, il y a des synergies qui vont se faire entre Pokémon Go et ce jeu, Let's Go. A priori, y a, le nom n'a pas été choisi au hasard. On pourra échanger les Pokémon de première génération entre Pokémon Go et le jeu. Donc, c'est ça D'accord. qui est intéressant. Et en l'occurrence, le monde sera un remake de Pokémon Jaune. Donc voilà, ça va peut-être faire de la nostalgie chez certaines personnes. Ils ont voulu quand même, Pokémon Company, rappeler à toute la fanbase classique et traditionnelle de Pokémon que ce n'est pas le Pokémon qui avait été annoncé, je crois, à l'E3 dernier par Nintendo.
Ah, c'est pas la même chose alors.
C'est pas la même chose. Ils ont dit, il y a un Pokémon RPG classique qui arrive sur Switch. Et en l'occurrence, Pokémon là arrivera l'année prochaine.
Ah, je pensais que c'est celui-là, moi, tu vois.
C'est un autre. Et ils ont voulu, je pense vraiment, parce qu'ils ont anticipé l'inquiétude des fans qui aiment jouer à Pokémon de manière un petit peu hardcore, un petit peu classique, on va dire, parce que Pokémon c'est infiniment compliqué aujourd'hui, je vous le dis. Si vous voulez faire du Pokémon de manière pro, c'est super compliqué. Il faut vraiment se lever ultra tôt, faire des recherches et tout ça. Mais c'est aussi compréhensible que ça puisse faire peur à certains joueurs, ça. Et donc je pense qu'ils ont voulu trouver ce truc-là. En tout cas, un Pokémon classique arrivera en deuxième moitié de 2019. En tout cas, ça a été rappelé lors de cette conférence de presse. Je trouve ça un peu quand même triste parce que je trouve que les Pokémon classiques ont cette force de pouvoir attirer autant les joueurs occasionnels, parce qu'on peut tout simplement se balader, attraper des Pokémon et s'amuser. Le jeu est fait pour qu'il y ait une porte d'entrée d'un point de vue gameplay, d'un point de vue aventure, qui soit vraiment placée très 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 basse pour attirer tout le monde, et en même temps une vraie profondeur pour les mecs qui veulent vraiment poncer le jeu, qui veulent vraiment se lancer dans le professionnel.
D'où le carton historique à chaque fois.
Voilà, donc je suis pas encore convaincu convaincu. C'est intéressant, je comprends qu'ils veuillent réactiver ce public de Pokémon Go. Je crois que c'est 600 millions de téléchargements. C'est risible en termes de public potentiel. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça sort en fin d'année.
Puis ça alimente aussi le catalogue de la Switch qui va en avoir besoin dans les mois qui viennent.
C'est même pas 800 millions d'ailleurs. Mais bref. Et en tout cas, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce réservoir. Autre annonce sur une autre grosse licence qui a été faite cette semaine. Donc
teaser.
C'est Fallout 76 qui a été annoncé par Bethesda. Alors, les loulous de
beaucoup
Bethesda, ils ont fait un Twitch sur lequel ils ont bloqué une caméra sur un Pip-Boy, comment ça s'appelle ? C'est Pip-Boy ? Vault-Boy, j'ai oublié. Vault-Boy. Sur un petit Vault-Boy qui bougeait pas. Alors, tout le monde était fasciné. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont bloqué sur ce stream avec de temps en temps un mec qui passait devant.
Il y a de quoi. C'est bien
coucou.
Foutu, c'est bien orchestré.
Qui faisait coucou de temps en temps.
C'est malin.
Ah ouais, c'est malin.
C'est malin.
Bon, tout le monde était un peu curieux. Je me rappelle, je suis resté une heure. Je fais bon, bah, ce sera pas pour tout de suite. On a compris que c'était pas pour tout de suite. Mais voilà, ils ont fini par annoncer Fallout 76, donc qui sera un RPG de survie en ligne. Donc on est plus sur un truc genre H1Z1 ou Rust, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui en fait, qui était à la base un prototype qui a été démarré en même temps que Fallout 4. Et qui n'a jamais abouti finalement, donc qui va devenir un jeu à part entière. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est développé en collaboration entre les studios du Maryland, donc les studios principaux de Bethesda, donc ceux qui ont fait Fallout 4 et Skyrim, et ceux d'Austin. Et là, ça commence à devenir un peu plus inquiétant, puisque c'est ceux qui ont pas fait Battlecry. Donc Battlecry, c'était ce jeu un peu en arène, semi à distance, semi corps à corps, qui n'a jamais convaincu grand monde, hein, qui a été présenté à différents E3 avant d'être abandonné tout simplement.
Et c'est à quel moment qu'on va apprendre que c'est un Battle Royale?
Écoute, je sais pas, peut-être quand ils vont changer le nom pour Fallout 100, je ne sais pas, on verra bien, mais voilà. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais je pense
c'est le début, de toute façon, des annonces pré-E3.
C'est
le moment où jamais de se glisser avant la déferlante des conférences.
C'est un teaser et on en saura certainement plus lors de la conférence Bethesda qui aura lieu dans quelques jours. Et enfin, voilà, il y a eu un petit fait divers quand même, Active Shooter, qui est un jeu sur Steam, qui devait sortir le 6 juin, sauf que ce jeu avait le très mauvais goût d'être un jeu où en fait où on incarnait un mec qui faisait un shooting dans une école américaine.
Oui, un peu moyen.
Après les différentes fusillades de Parkland notamment, hein, celle qui avait fait 17 morts et celle de Santa Fe qui a eu lieu très récemment le 18 mai fait 10 morts, c'était de ultra mauvais goût. Donc des associations ont évidemment interpellé Valve pour leur dire peut-être que non. Hein, dans l'ensemble. voilà, donc éviter. Donc c'est un jeu qui est développé par un soi-disant développeur qui s'appelle Revived Games et édité par un soi-disant éditeur nommé Acid. Il s'est trouvé après enquête que c'était la même personne. Il s'appelle Atta Berdiev. Il est russe. Il a déjà été banni de Steam par le passé parce qu'il avait fait des jeux Rick and Morty alors qu'il possédait aucun des droits de Rick and Morty.
D'où peut-être le changement de nom, les sociétés,
voilà.
Écran, genre de truc.
Évidemment, Valve a réagi, a viré le type. De Valve, le mec a réagi dans différents médias en disant je ne comprends pas, ce n'était pas du tout mon intention que de choquer les gens, et surtout, mais ça remet encore plus en cause, mais Valve c'est pas la première fois, il y a encore pas longtemps il y a eu un scandale où Valve en gros a menacé de virer des jeux japonais qui n'étaient pas plus sexuels que ça, mais juste il y avait peut-être un téton qui traînait de temps en temps, alors que les Witcher 3 et les compagnies il y a du sexe en caméra,
c'est le côté arbitraire de
Valve,
comme tu disais, une plateforme privée,
mais surtout un côté obscur, t'as l'impression qu'il y a personne en fait. T'as l'impression qu'il n'y a personne derrière l'écran qui fait oui, ça non, non, ça non, ça ouais, c'est abusé,
c'est
ça non.
IA,
C'est une drôle d'IA bizarre. Et là, en l'occurrence, ce jeu-là a été accepté parce qu'en fait, si vous êtes un développeur aujourd'hui et que vous voulez arriver sur Steam, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un éditeur et vous passez par l'éditeur
qui se porte garant, c'est ça qui est responsable de.
Soit vous passez par le Steam Direct qui a remplacé le Greenlight. Le Greenlight, c'était cette espèce d'usine à gaz où on ne comprenait rien, où les gens cliquaient sur oui, je veux bien que ce truc arrive. Mais il y avait un algorithme dont personne ne connaissait les tenants ou les aboutissants. Et à la fin, les jeux sortaient ou non, et tout le monde disait que ça marche pas, Valve a dit que ça marchait pas, et depuis le 13 juin dernier il y a Steam Direct qui existe, donc 13 juin 2017 si jamais vous écoutez ça plus tard, et Steam Direct, oh là là, la barre a été mise, ça va être compliqué de publier un jeu, il suffit de mettre $100 remboursable sur les ventes des jeux.
Ah donc, ouais, oh là, quel engagement.
C'est l'engagement compliqué. Je veux dire, trouver $100,
c'est dur.
On ne peut pas trouver $100, très clairement.
Non,
c'est très
bizarre,
compliqué.
C'est bizarre.
Donc, clairement, ça met une barrière. Les mecs, ils veulent pas mettre de jeux.
Excuse-moi, concrètement, ce jeu en question, il était arrivé à quel stade du coup? Il était affiché pré-vente.
J'ai pas pu aller vérifier sur le site de Valve puisque le jeu a
parce
été viré.
Si les associations ont commencé à monter au front.
Ça montrait, même dans les. Alors, je sais pas si je vais être en pré-alpha, il me semble pas quand même, mais même si c'était le cas, le jeu décrivait assez bien ce qui s'y
passait.
Ouais,
il était clair. C'était assez clair. Il y avait pas de doute.
Il y avait des trailers. En plus, ça, c'est un jeu Unity dégueulasse où il a laissé les assets de base, ses mauvaises animations, shooter de base. Bref, c'était vraiment clair de quoi il s'agissait. Il n'y avait pas de doute, pas d'ambiguïté. Et ça prouve encore une fois que Valve mettait des mecs sur la curation. Si Apple le fait, c'est qu'il y a une raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Valve, arrêtez de faire ça, c'est terrible, ça fait que des ennuis pour tout le monde. Les bons jeux se font virer, les mauvais jeux restent. Au bout d'un moment, c'est que ton système, il marche pas. Voilà, merci, je t'aime beaucoup, Valve, sinon ça va, c'est cool.
Merci, Corentin. Le com des com d'il y a deux semaines, oui, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, pour cause que j'étais complètement bloqué. J'ai tellement bloqué que j'avais l'impression d'être un, vous savez, des personnages en 3D dans les jeux vidéo au début des années 2000. Limite, je marchais tout droit contre les murs.
T'étais antipose.
Mais limite, ça.
Ah, c'est bien, t'as retrouvé une mobilité.
À peu près normal. Je peux vous regarder dans les yeux, c'est déjà pas mal. comme il y a deux semaines, très concentré sur ce formidable jeu
Raging Justice.
Ah, mais oui. avec Red qui dit perso, je suis Team Patrick Forever sur Raging Justice. Red. On est dans le respect et l'amour du beat'em up ça se ressent. Ce n'est pas du second degré dont parle Erwan, mais de la culture du genre. Erwan, tu ne peux pas savoir. Erwan, tu étais sur Elite. Bref, à des années-lumière qualitatives des dernières tentatives honteuses pour faire renaître Double Dragon. On n'est pas dans le renouveau ou le mix des genres, comme Fury ou Hyper Light Drifter. C'est vrai, mais c'est bien quand même. Et perso, les graphismes ne me choquent pas. Je trouve ça même assez réussi pour la direction choisie.
Ouais.
Et pas si évident à réaliser.
C'est téméraire hein, comme commentaire.
Arrêtez, c'est clivant.
Ce sont des commentaires, on les respecte.
Ah, je respecte. Merci, chacun. La liberté pour tous.
Moi seul, du coup.
Et Jérémy Israël, à propos de Raging Justice, évidemment, quand on a grandi avec Double Dragon, Final Fight et autres Street of Rage, on ne peut pas être insensible aux émotions de Patrick. Parfois, ça innovait, comme avec TMNT, Tortue Mutant Ninja, Teenage, et la personnalité des différents personnages, ou les ennemis morts dans Golden Axe. Ah, mais voilà, Golden Axe, voilà, une belle référence. Qui ne clignotait pas, mais restait à l'écran. Moi, ma véritable Madeleine fut clairement Burning Fight, un étalon du genre.
Je l'ai terminé
plus souvent que Spaceball, et en arcade, c'était King of Dragons qui avalait tout mon argent de poche. Puis plus tard, j'ai pu et su apprécier le mode beat'em up de Tekken 3, rappelez-vous.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Mais moi, je m'en souviens
c'était
même
excellent.
Pas de ce mode.
Mais oui, c'est vrai. Oui.
Je me souviens même pas. Pourtant, j'ai joué à Tekken 3. Hein,
mais oui, ça se débloquait, je crois. Je me rappelle plus très bien. Oui, c'était excellent. Il y avait un mode.
Sur PlayStation.
Ouais.
Non.
Bon, en tout cas, je pense que s'il y a un consensus qui peut être fait, c'est que la sincérité de Patrick sur son amour sur ce jeu n'est pas à remettre en question du tout.
Mais oui. Après, j'ai juste donné mon avis de joueur d'élite.
J'ai pas remis non plus en question ta sincérité. Ouais.
voilà, c'est le com des com donc sur les forums de Silence en Joue, des forums qui sont hyper bien. On va commencer à en parler. Il faut en parler. Je pense qu'on avait fait une émission spéciale Heavy Rain, on avait fait une émission spéciale Beyond Two Souls, pas une émission spéciale Fahrenheit parce que c'était en 2005 et qu'il n'y avait pas encore Silence en Joue. Et pas loin hein, quand même.
On aurait pu.
Bref, un jeu Quantic Dream, c'est jamais un jeu anecdotique, c'est quand même une grosse sortie, c'est des grosses productions, hein, surtout depuis Heavy Rain. Là, ce jeu Detroit Become Human, on en entend parler quand même depuis longtemps. Alors c'est, on va dire, c'est une évolution de la vidéo Kara hein, qui avait été présentée à l'E3 2012, je crois, à l'E3 ou au Gamescom, je sais plus, enfin un des deux.
J'ai un doute. Hein, ouais.
Et voilà, donc on savait depuis un bail que Quantic et David Cage bossaient sur ce monde futuriste d'anticipation où les androïdes chercheraient à retrouver leur humanité. Enfin voilà, ça s'appelle Detroit Become Human.
Mon nom est Kara. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde. L'endroit où tout finit.
Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle.
Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs.
Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave.
Merci, Marcus.
Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir.
Enfuis-toi !
Trouve Jericho !
Je connais quelqu'un qui peut t'aider.
Détroit, Become Human. Alors, avant de te laisser la parole, Patrick, c'est vrai que d'une part, les jeux Quantic Dream sont des jeux, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a quelques années de développement derrière, donc c'est vrai que quand ils sortent, ils sont forcément très commentés, très attendus, dans un sens comme dans l'autre, on va dire.
Ils sont attendus et attendus au tournant, quoi.
Et attendus, voilà, exactement, ouais. Attendus et attendus au tournant. Il y a quelque chose de certain, c'est que il y a une marque de fabrique Quantic Dream, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de juger un jeu au-delà des promesses et de ses intentions et de ses ambitions initiales. C'est vrai que, par exemple, on ne va pas forcément beaucoup parler du fait que c'est un jeu qui s'avance en QTE, hein, parce que si on n'aime pas ça, Quantic Dream le fait, c'est sa marque de fabrique, c'est sa façon de développer les jeux. Enfin, on sera amené à en parler de toute façon, mais voilà, ce qui est intéressant avec les jeux quantiques, c'est qu'ils ont une identité propre, qu'on les aime, qu'ils soient plutôt réussis comme l'était Heavy Rain ou carrément plantés, ratés comme l'était Beyond. Mais il y a une identité, c'est reconnaissable, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ce Détroit, Patrick,
l'a fini. Bah oui, alors Quantic, on a tous une histoire avec. On parlait de jeux clivants tout à l'heure avec Raging Justice, on est dans un tout autre domaine, mais on est aussi dans des jeux clivants. Je pense que Quantic, il essuie beaucoup de critiques régulièrement à chacune de ses sorties sur voilà, le rapprochement au cinéma, etc. Moi, je suis plutôt client depuis Nomad Soul, depuis... je trouve que c'est un studio, bah, comme tu disais, qui a une patte déjà, qui a une volonté de visuelle, de narrative, moi, que je trouve intéressante. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est un studio qui cherche toujours à questionner la narration dans le jeu vidéo. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et je trouve qu'ils essaient toujours de questionner la façon dont une histoire peut être racontée. On avait eu évidemment Nomad Soul qui date un petit peu maintenant. On a vu Fahrenheit qui commençait à poser des questions sur des mises en scène dynamiques en temps réel. Heavy Rain, moi qui reste pour moi le titre qui m'a le plus marqué, Heavy Rain à date, parce que c'était un thriller qui avait vraiment... Je trouve qu'il y avait un univers cohérent et moi je m'étais vraiment attaché au personnage. J'avais vraiment vécu. Et puis c'est un titre moi qui m'avait, on va pas spoiler, même si bon, il y a prescription depuis le temps. Mais bon, voilà, le jeu avait su me surprendre à des moments où je n'avais pas vu certains trucs venir. Et encore une fois, il y avait une vraie galerie de personnages. Beyond, donc il y a 4 ans maintenant, avait tenté autre chose. On avait parlé à l'époque. Avait tenté de questionner le rapport, et ça c'est quelque chose qui est toujours là chez Quantic, je pense, c'est ce rapport du joueur avec l'environnement du jeu et son rapport quasiment physique avec les personnages. Il y a quelque chose aussi bien dans le mimétisme des actions, avec, tu parlais des QTE, avec la manette on passe son temps à gesticuler, à s'imprégner des actions des personnages. Ça fait sourire certains, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans quelque chose de très performatif et de très naturel dans un jeu vidéo. En même temps, il y a vraiment une volonté de nous faire ressentir ce que peuvent sentir les personnages pendant l'action. On avait eu donc une expérimentation avec Beyond qui était d'incarner cette entité flottante. Donc là, c'était une sorte de remise en question de la mise en scène très, on va dire, théâtrale, filmique de Heavy Rain, et d'avoir quelque chose de plus flottant, de plus où finalement le joueur devenait quasiment metteur en scène avec quasiment la caméra entre les mains. Il pouvait se balader dans l'action. Moi, j'avais trouvé ça intéressant en termes de projet. Après, dans le gameplay, ça marchait pas très bien. J'ai refait Beyond juste avant de lancer Detroit. Et effectivement, le rythme est décousu du jeu. Et il y avait surtout ce choix d'une narration, je sais pas si vous vous rappelez, qui était déstructurée.
On faisait des sauts de puce entre différentes époques de la vie.
Et du coup, et ça, quand on relance le jeu aujourd'hui avec, justement, en connaissant un peu, voilà, l'histoire, en se rappelant 4 ans après de l'histoire, finalement, ça marche plus parce qu'on est plus dans le truc du tout. Et on se rend compte que ça brisait quelque part l'immersion. Sur Detroit, on revient à quelque chose de plus traditionnel. On revient plus à une formule proche d'Heavy Rain, en fait. Quelque chose de plus linéaire et pour moi de mieux maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas eu une volonté de se partir sur une remise en question fondamentale de la mise en scène comme Beyond avait essayé de le faire avec plus ou moins de bonheur. Là, on est sur quelque chose de plus traditionnel. Et j'ai eu très peur, moi, en lançant le jeu. J'avais peur sur le sujet qui moi, me passionne, hein, le rapport de l'homme à la machine. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui est en même temps un piège, parce que c'est quelque chose qui a été très très étudié au cinéma, dans la littérature. Donc attention, Donc j'avais un petit peu peur de ça.
Il y a des antécédents, faire attention, parce que on peut penser inventer des trucs alors que d'autres l'auront mieux fait déjà avant soi. Quoi.
Moi, je suis encore meurtri de Blade Runner 2049.
S'il y a quelqu'un à Quantic Dream qui pense avoir inventé un truc avec Detroit...
Ouais, non.
Je pense qu'ils le savent, hein, qu'ils ont rien inventé. En fait,
je pense que on parlait tout à l'heure d'être attendu et attendu au tournant, et je pense qu'il y a une raison aussi principale, c'est que certes, Quantic Dream allie à la fois une façon de faire des jeux qui est bien propre à elle, mais finalement tout comme Telltale Games. Mais
oh là là,
laisse-moi finir. C'est que la différence avec Telltale, c'est que Telltale n'a pas la communication, n'a pas la presque
ils
prétention.
Ils n'ont plus envie, surtout, Telltale.
Non, je sais, ils mais ont plus en fait, envie. Pourquoi ça... Non, mais moi, je réponds à la question, pourquoi ça crée du débat quand un jeu Quantique sort? Et pourquoi quand
ouais,
un jeu Telltale sort, ça ne crée pas autant de débat?
Plus personne n'en parle.
Parce que... oui, plus personne n'en parle. Mais parce que quand Quantique sort un jeu, il y va avec tout l'aplomb du monde. Et c'est vrai qu'au niveau de la communication, ça a de l'influence sur... Ça va catalyser, quelle que soit l'impression que tu auras du jeu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça va catalyser. Si t'aimes bien, tu vas adorer. Si t'aimes pas, tu vas détester. Il n'y a pas de middle ground avec Quantic Dream. C'est aussi, et je pense, à cause ou grâce à la personnalité un
oui,
petit peu
sulfureuse. Ah, c'est un studio français, donc réception en France assez particulière aussi.
Bien
on a aussi, voilà, on a ça aussi avec les prods de Luc Besson au cinéma. Enfin, c'est un truc de très, très particulier. Donc, je disais, donc, jeu plutôt traditionnel, et c'est vrai que, alors, on va resituer rapidement, on incarne donc on va diriger trois principaux personnages, donc Kara, donc qui est une androïde, donc on dirige trois androïdes, ça c'est important aussi. Nous on est un humain derrière notre manette et on dirige trois androïdes qui sont en rapport avec d'autres humains, ça je trouve ça assez intéressant aussi. Donc Kara qui est un androïde on va dire comment dire de service dans une maison ménagée qui se retrouve dans une famille, mais ça on l'avait peut-être non on n'avait pas parlé de la démo
non, la fameuse démo
genre, je sais plus, vraiment, ouais. Qui va devoir réagir quelque part face à un drame domestique.
Ah oui, t'as raison. Oui, c'était pendant E3, oui. C'est le papa qui maltraite sa fille.
Exactement. Et elle, donc, en tant que machine, qu'est-ce qu'elle fait? Et ça, c'est au joueur d'en décider. C'est le joueur qui décide de ce que cet androïde va faire. Marcus, qui donc, lui, est un androïde au service d'un peintre qui le considère comme son fils. Donc, cet androïde, lui, a un rapport quasiment
charnel.
De fils avec ce peintre qui est en fin de vie et qui voilà qui le considère vraiment comme un humain, qui lui parle comme un humain, qui le responsabilise sur ce qui lui arrivera plus tard. Et puis Connor qui lui est une sorte de vente machine froide, c'est en gros c'est un peu un Blade Runner, c'est que lui-même est un androïde qui enquête sur les androïdes déviants puisque le sujet met en scène cette multiplication de cas de déviants androïdes, c'est-à-dire qu'ils ne répondent plus à leur prime directive comme on disait dans Robocop, mais ils s'écartent, ils prennent des décisions qui ne sont pas liées à leur code et ils s'émancipent, voilà. Oui, donc donc Connor lui enquête sur tout ça. Donc eux, ce sont les trois androïdes qu'on dirige, et déjà je trouve ça plutôt malin, voilà, que nous, en tant qu'humains, on dirige trois androïdes. Et finalement, dans le jeu, on va modeler la narration autour de ces trois machines qui vont nous devenir familières. Parce que le jeu est assez long, hein, il dure assez longtemps. On va avoir tout le temps de se familiariser avec ces personnages androïdes. Et pendant toute la narration, on se rapproche d'eux. Et finalement, l'humain devient le personnage étranger, le personnage inconnu. Il y a notamment ce personnage du flic, je sais plus comment, Anderson.
Hank.
Le flic avec lequel Connor doit faire équipe, qui est incarné par Clancy Brown. Alors Clancy Brown, vous vous rappelez évidemment, c'était le Kurgan, le méchant dans Highlander. Je sais pas si vous vous rappelez ce personnage. Donc lui est un personnage assez mystérieux. On a du mal à le cerner. C'est une sorte de personnage complètement qui a des réactions assez étonnantes quand on va.
Non,
c'est un peu l'étranger. Bon, justement,
il faut que j'intervienne.
Vas-y, interviens.
Non, mais c'est par exemple, j'interviens juste sur Hank. Par exemple, tu dis le personnage est mystérieux. J'ai rarement rencontré un personnage aussi cliché.
Ah, mais
quand même, on est dans le personnage qui existe déjà, qui préexiste à Détroit, qui est le personnage de l'ancien bon flic devenu alcoolo parce qu'il a eu un drame dans sa vie. Ok. Alors et
j'avoue que dit comme ça, c'est super cliché.
Non, mais ce n'est que ça.
Ouais.
C'est-à-dire que il n'est pas au-delà de ça. Il ne dépasse jamais. Avec évidemment, alors juste je complète la description, donc ancien bon flic devenu alcoolo suite à un drame qui se retrouve obligé d'avoir un partenaire qu'il n'a pas choisi. Donc on est dans le buddy movie
classique.
Ultra cliché,
classique.
Limite interdit, hein, je pense, mais c'est. Et aussi sur, je voulais reprendre ta description un peu de l'univers et tout ça. Moi, j'ai une tendance à résumer l'univers. Vous imaginez la planète des singes et Blade Runner. Mmh. Vous mettez ça dans un mixeur, vous mélangez, vous avez des trois. C'est, on est à la, enfin, c'est pas du tout du plagiat. Hein, c'est de l'inspiration et tout ça. Mais il y a les ingrédients, c'est Planète des singes, Blade Runner.
Ouais, clairement. Point.
On est que là-dedans et c'est pour moi le défaut peut-être un peu originel de Détroit, c'est que finalement à partir de ce pitch initial qu'on comprend très vite, hein, qui nous est très vite présenté.
Et je pense que c'est
et que,
aussi,
et hein. qu'une fois qu'on a compris ces deux références absolues de Détroit, eh bien plus rien ne va nous surprendre. C'est-à-dire plus rien dans l'évolution du scénario ne peut et ne va nous surprendre. C'est-à-dire qu'on est, mis à part des scènes, il y a des scènes surprenantes. Il y a des scènes surprenantes. Je ne dis pas des passages courts
moi,
et des choses
plus,
comme ça, mais sur
plus.
L'évolution du scénario et même à la limite en vous disant juste c'est un croisement entre la planète des singes et Blade Runner, j'ai l'impression d'avoir fait le plus gros spoil de l'univers parce que mais bon c'est pas un vrai spoil parce que les joueurs s'en rendent compte au bout de 10 minutes de jeu. Mais finalement voilà. Ça va, tout va couler très naturellement.
Moi, je suis d'accord sur les clichés, on est d'accord, et ça, c'est un fil rouge dans les jeux quantiques. Moi, j'ai plus des références pop, quelque part, qu'on connaît tous. Et je pense que les devs savent que c'est maîtrisé par tous les joueurs. Donc, ce sont des références dans lesquelles on va se retrouver directement, on va connaître tous ces codes. Moi, je parlais plus du rapport au personnage. Je pensais plus à une proximité avec ces androïdes qu'on va développer en tant que joueur et ces humains qui nous restent finalement, qui nous restent étrangers. C'est-à-dire qu'on ne les maîtrise pas, on ne les contrôle pas. Ils nous restent. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est dans ce rapport qui, pour moi, est central dans un jeu narratif. C'est-à-dire qu'on est tout le temps aux commandes des androïdes et l'humain nous reste étranger. C'est ça que je voulais dire. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un retournement de situation alors que. Effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'on incarne un humain confronté à des machines et qui remettent tout ça en question, etc. Non, au contraire, je trouve que le fait de nous faire incarner des androïdes est plutôt intéressant. Il y a ce rapport aussi avec Lance Henriksen, l'acteur de Alien notamment, qui joue ce peintre. Voilà, on l'incarne pas. Enfin, on reste extérieur à lui.
Oui,
et ça, je trouve
mais,
que c'est.
Mais le truc, c'est que les androïdes dont on parle. Sont désespérément humains.
Alors, pas tous, non. Connor, justement,
ah,
après...
Connor, c'est juste un humain... c'est juste un humain un peu trop zélé. Enfin, tu vois, c'est le flic zélé qui obéit aux ordres.
Vous pouvez rappeler Connor.
Connor, c'est un peu le policier.
Le flic
androïde.
C'est celui qui est avec l'alcoolique.
Voilà, c'est ça.
C'est le Blade Runner androïde lui-même, en fait. Mais en fait, tu en fais ce que tu veux, justement.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans le côté désespérant. Moi, je vais parler de forcément de la fiction et c'est très dur de juger la narration et la fiction. Sauf que encore une fois, on est en 2018, il y a des choses qui se sont déroulées avant.
Ah bien sûr, il y a des choses comme ça, je suis d'accord.
Et je trouve dommage, par exemple, enfin, on parle d'intelligence artificielle, c'est le gros sujet, enfin, Android, oui. Intelligence artificielle, tout ça. Il y a un film, je prends que un film, hein, je parle pas des romans, des réflexions,
télé.
Tout ça, mais Her, par exemple,
oui,
qui est
sûr.
Le film d'anticipation sur l'intelligence artificielle, bah, pose des questions. Enfin, je veux dire, il y a le déroulement de Her, même pour quelqu'un qui suit ce sujet et qui s'interroge et qui se pose des questions, il est surprenant, il va au-delà de ces questions de humanité, non-humanité, est-ce qu'une intelligence artificielle veut être humain ou elle va être autre chose, va le dépasser, tout ça.
Et question là, plus notre rapport que la nature, finalement.
Là, on se retrouve avec des androïdes qui ne sont qu'humains, finalement. Enfin, en fait, c'est des sous-humains. En fait, c'est comme la planète des singes, c'est-à-dire ce sont des singes qui deviennent intelligents comme des hommes, donc ils veulent avoir la même chose que les hommes. Et donc, du coup, on a un questionnement. En fait, juste, j'ai peur d'être un peu brouillon dans mes réflexions, mais à la place d'avoir en fait, on a un questionnement auquel on a déjà été confronté.
Oui,
c'est-à-dire,
mais qu'on connaît,
c'est le rapport, l'esclave. Enfin voilà, c'est grosso modo, c'est Spartacus. C'est Spartacus. Il y a rien d'autre. C'est-à-dire que c'est l'esclave qui veut retrouver sa liberté. On n'est plus dans une anticipation un peu, on va dire, réjouissante au niveau de la réflexion que ça peut provoquer. On est finalement dans du schéma, encore une fois, très connu. Voilà, non mais c'était juste mais je suis obligé de t'interrompre parce que
oui, non, mais on est là pour ça, ouais. Donc moi je disais, moi ce contact, moi ce rapport au personnage, c'est ça qui m'intéresse dans la narration, c'est que moi je me suis senti plus proche de ces androïdes, encore une fois, où tu peux modeler aussi la narration à ta façon selon les choix. Et là il y a eu un vrai travail de Quantique sur les arbres de choix de conséquences. On sent que là ils ont vraiment travaillé là-dessus. Ça avait été pas mal critiqué sur certains précédents jeux où finalement ça restait assez limité, la visibilité. Bon, moi, j'ai pas questionné le jeu en tous les sens. Moi, j'ai fait une partie. Ouais. La partie est longue, donc c'est un jeu. Et je pense pas que ce soit une bonne idée, forcément, d'y revenir tout de suite et de repartir tout de suite à re-questionner le jeu en tous les sens. Je pense qu'il faut faire sa partie. Moi, j'ai vécu. Alors, comme je te disais, moi, j'ai été inquiet, moi, sur la première heure et demie de jeu, vraiment. J'ai lancé. La thématique me laissait froide au début. J'étais un peu refroidi par le gameplay qui n'avait pas tant évolué que ça. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très très conservateur par rapport au Quantique qu'on connaissait avant avec les QTE, les mouvements de mimétisme pour ouvrir les portes, etc. Première heure et demie, moi qui était assez plate, et là je me suis dit le jeu il va se faire défoncer parce que justement on sentait qu'il y avait une crainte vraiment des critiques sur qu'est-ce qui va se passer avec justement la formule qu'on connaît qui commence à vieillir et il y a eu des scènes choc dans le jeu. Alors, je sais pas, on va essayer de pas spoiler, c'est pas évident sur le titre parce que on va dire qu'il y a deux trois scènes moi qui m'ont vraiment frappé. Il y en a une. La première, je pense que toi, ça va être pareil, qui se passe en enfer, on va dire, alors, en termes de mise en scène. Je sais pas si on peut.
La maison, là ?
Non. Alors, je sais pas jusqu'où on peut aller. Ou un personnage.
Non, mais on peut citer le nom des scènes. Enfin,
une scène avec Marcus qui se réveille dans un état assez déplorable. Oui. Et en termes vraiment de sensitive, la scène, elle est brillante. En termes, d'ambiance, en tant que joueur, on a des stimuli visuels, sensoriels qui sont vraiment très, très osés en termes de mise en scène et vraiment réussis. Qui sont waouh! Ils l'ont fait. Et je trouve que là, vraiment, c'était une première claque où je me suis vraiment senti embarqué dans l'histoire. Et là, je me dis, il y a un truc qui marche. Et puis, un peu plus loin, bon, on va pas revenir sur toutes les scènes parce que ça peut un peu spoiler, mais on va dire une scène de piège avec Kara et la petite fille où, pareil, il y a eu un retournement. Oh moi, j'ai trouvé que c'était bien orchestré. Si, moi, je sens visuellement.
La scène du Yougoslave, là? Quand elle cherche de l'aide dans une maison, la scène de la maison hantée, en fait.
La scène de maison un peu gothique. Et là, je me suis dit, pour moi, ça a marché, vraiment.
Oh
moi, ça a marché. Moi, je me suis dit,
Moi,
ça m'a embarqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même.
Moi, ça a été une scène assez problématique pour moi parce que, encore une fois, donc, j'étais dans Blade Runner, la planète des singes. Et là, je me retrouve dans la maison hantée des Toy Story. Mais on est vraiment on est dans Toy Story. Non, je suis désolé, on est dans Toy Story pas du début à la fin mais quasiment. C'est on est dans Toy Story.
On est complètement
dans la deuxième moitié du premier Toy Story, on est complètement là-dedans. C'est il y a que ça quoi, c'est limite gênant. Enfin
moi j'ai pas pensé à Toy Story du tout sur la séquence. Moi j'étais vraiment embarqué dans le côté glauque plutôt de la séquence et de la découverte de ce qui se passait.
J'ai trouvé que c'était un passage imposé un peu douloureux. Enfin
j'ai eu la remarque de me dire tiens, il y a un passage gothique. Il y a un passage gothique dans ce jeu qu'on va pas forcément venir. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est récurrent chez les jeux quantiques. Tu sens qu'il y a une compression de plein d'influences et que même dans la constitution des niveaux, les niveaux sont très marqués en termes d'ambiance. Et c'est même réussi. Je trouve que les trois personnages ont chacun une ambiance musicale, une ambiance visuelle, une ambiance de thématique parce qu'ils ont chacun une destinée. Ils vont se recroiser. On va pas non plus trop spoiler, mais ils vont se recroiser à des moments donnés. Mais je trouve que c'est bien joué. C'est qu'on a vraiment on a trois narrations radicalement différentes, avec des événements vraiment différents, avec des trajectoires singulières de personnages qui vont aller vers quelque chose de plus grand. Et ça, sans je ne veux pas parler de la fin et tout ça, mais le jeu le tient. Et j'avais peur qu'il s'effondre là-dessus, j'avais peur qu'il se plante un peu sur ce que... Et ça, je trouve qu'il le tient. Il tient ça. Il tient ce changement d'échelle de quelque chose qui se passe.
J'ai juste reprendre la parole parce que j'ai juste l'impression de jouer le procureur depuis le début suite à ton enthousiasme.
C'était attendu. Enfin, je sais que Patrick est assez attentif à la mise en scène et choses comme ça. Je pense que
je cache pas que j'ai adoré le jeu. Mais j'aime bien les prods quantiques malgré leurs défauts. On va en parler. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres. moi globalement le jeu m'a embarqué vraiment. Ouais. Enfin j'ai vraiment pris plaisir à le parcourir. Je vais le refaire. Je pense que je vais le refaire, pas tout de suite, mais vraiment j'ai vraiment pris plaisir.
Non, c'est... Non, oui. Je voulais dire que voilà, j'ai aussi commencé à dire il y a des alors je l'ai fini une fois. On va parler du terme finir des trois. Je trouve que c'est peut-être un des points les plus grosses questions que laisse ce jeu et ce choix initial de Quantic. On va parler de cette notion de fin. Mais il y a quelque chose qui marche, à mon avis, c'est la direction artistique. La direction artistique et le sentiment quand t'es joueur de Détroit de faire face à un boulot, à un objet artisanal d'une complexité et d'une finesse absolument incroyable. Ouais. Moi j'ai été sidéré à plein de moments, que ce soit dans les différents types d'actions, on se rend compte que si on loupe un QTE, eh bien ça se reprend, mais on se demande, comment c'est possible de recréer cette fluidité avec des mauvais choix, avec des bons choix, avec des erreurs dans les QTE, avec des QTE réussis et tout ça.
Et des mouvements de caméra aussi.
Et des mouvements de caméra et des choses qui sont une cohérence visuelle. La cohérence visuelle est très impressionnante. Je trouve le choix des couleurs, le choix des palettes de couleurs qui sont utilisées dans les différentes scènes. C'est vraiment une réussite artisanale.
Ouais. Le jeu rend d'autant plus mieux sur PS4 Pro. J'ai vu des comparaisons.
Plus qu'au
nombre de pixels, il y a une dynamique filmique qui m'a vraiment frappé sur certains plans où la caméra, mais comme si on avait une caméra physique qui bouge et qui parfois prend du recul par rapport au personnage. Et on garde la manette, on garde le contrôle des personnages et on se retrouve sur certains plans sur des cinématiques interactives. Ouais. Et c'est bluffant parce que tu dis tiens c'est bon, t'as une vidéo qui s'enclenche. Mais non, ton personnage, il bouge pas. C'est à toi de donner l'afflux au personnage pour qu'il bouge et tu te sens, tu lâches pas la manette. Contrairement, je crois, à Evie Ryan où des fois, tu poses, tu dis, j'attends. Ouais. Là, non, moi, j'ai jamais posé ma manette. J'avais tout le temps cette tension. Et je pense que c'est une réussite de Détroit par rapport peut-être plus que notamment les deux précédents jeux, c'est d'avoir une tension continue. C'est-à-dire que tu te demandes toujours. Déjà, t'es beaucoup plus sollicité par justement ces mouvements de caméra. T'es beaucoup plus en contrôle des personnages tout le temps. T'as beaucoup plus de QTE qui s'actionnent, qui sont assez tendus avec des vrais enjeux. C'est-à-dire qu'un QTE raté peut faire déraper une scène. Donc t'as tout le temps cette sensation de faire attention à ce qui se passe. T'es tout le temps en alerte. Et moi, j'ai vraiment pas desserré les dents quasiment pendant tout le jeu. Tu te demandes toujours à quel moment quelque chose va se passer. Et je trouve que le rythme du jeu est vraiment maîtrisé à ce niveau-là. Il y a tout le temps un enjeu en route. Toujours quelque chose qui fait qu'on n'est jamais vraiment serein en jouant.
Et pour le reste, sur l'univers décrit, moi j'ai dit toutes les réserves que j'avais sur son ambition narrative et sur l'aspect surprise qui n'existe pas. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé très séduisant dans à peu près tout le déroulé du jeu, sauf quelques fautes de goût par-ci par-là. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de fautes de goût. Il y a par exemple les voitures autonomes. C'est un détail.
Ça reste très. On est en 2038, donc dans 20 ans.
Mais c'est cohérent.
Mais sur quelque chose de crédible.
Non, et puis il y a des petits détails qui sont travaillés, comme les traces des voitures dans la neige.
Ouais.
Pardon. Les traces des voitures dans la neige, vu que c'est des voitures autonomes, elles sont toutes sur les mêmes lignes. Enfin, c'est des petits détails. Où on sent que ça a été pensé, qu'il y a une sorte de structure générale, les panneaux d'affichage, les différents éléments. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion générale sur la construction de ce Détroit des années 2030. Je trouve que ça a été bien pensé, ça a été structuré. Après, je reviens juste sur un point, je t'avais laissé parler quand même, malgré mes interruptions, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de juger un jeu au-delà de ses promesses, au-delà de son ambition initiale. Et tu as parlé de l'ambition de Quantic Dream, qui est de questionner la narration. Et là-dessus, je voulais revenir parce que moi, c'est peut-être un des soucis majeurs de Détroit, c'est que je trouve qu'il ne questionne pas la narration. Il est justement dans un statu quo. Alors, il y a une nouveauté par rapport à Heavy Rain. Donc, Heavy Rain, hein, on le rappelle, ça date de 2010. Hein, ouais, donc, c'était il y a 8 ans.
8 ans.
Même par rapport à Fahrenheit, hein, Heavy Rain étant une évolution de. Mais bon, étant un Fahrenheit.
Mais on retrouve des composantes. D'ailleurs, je te coupe une seconde. Il y a des moments de stress. Je vais essayer pas de spoiler encore, mais je me rappelle Fahrenheit, une des scènes marquantes, voire la scène, c'était l'intro. Dans les toilettes, qui était en temps réel avec du split screen.
C'était la scène. Bonne scène.
Et moi, je trouve qu'il y a des échos de tout ça. Il y a des moments, des scènes un peu timées dans celui-là, où t'as une visite de policier à un moment, je vais pas spoiler, mais où pareil, t'as un stress avec un compteur, tu sens qu'il faut aller vite, tu dois cacher des trucs, etc. Je vais pas dire où, mais tu ressens un stress que j'avais pas ressenti, depuis un moment on sent que les tests ou les tentatives, les expérimentations des précédents jeux servent dans celui-là. On sent qu'ils sont mieux maîtrisés, ils servent. Et puis aussi, il y a un amalgame d'autres systèmes de jeu. Moi, j'ai bien aimé les reconstitutions, notamment avec Connor, d'action, un peu comme on a dans les Batman, où on peut reconstituer comme ça avec des indices. C'est pas très compliqué à faire, hein. En général, on galère pas très longtemps, mais c'est bien fichu. Ça permet de se déconnecter de l'action immédiate, de jouer aussi sur la temporalité d'une action.
Je veux dire que c'est sympa quand il y a du gameplay, Patrick.
non, mais ça reste. Mais c'est juste pour finir sur ce que je voulais dire sur la questionner la narration. Depuis 2010, le jeu vidéo a vraiment questionné la narration. Il y a eu une révolution narrative dans le jeu vidéo depuis 2010 et depuis Heavy Rain. Les choses ont évolué, les choses ont bougé avec les Walking Sim, avec Telltale, avec plein d'autres, avec Firewatch, avec plein d'expérimentation. Il y a des gens qui ont expérimenté la narration.
Mais justement, je te coupe une seconde. Tu parles aussi de narration environnementale. Je pense qu'elle est là aussi. Tu parlais de tous ces petits détails futuristes plutôt réalistes. Ils sont là aussi, tu vois. T'as plein de petits, t'as plein de journaux à lire dans tous les sens que tu peux faire ou pas, mais t'apprends beaucoup de choses, je trouve, sur l'environnement du jeu, sur son
attention,
univers.
Attention, si c'est des journaux à lire, c'est plus d'environnemental.
Non, enfin, tu vois, t'as fait partie de l'univers écrit. Ouais. T'as pas mal de choses que tu peux picorer dans ta gauche. Et surtout dans les endroits eux-mêmes qui sont plutôt bien.
Mais finalement, en fait, ce qu'a fait le jeu vidéo, je trouve, depuis Heavy Rain, c'est la révolution narrative a été sur l'immersion du joueur dans l'histoire, c'est-à-dire donner au joueur cette impression de liberté, cette impression d'entrer dans l'histoire, soit de la contrôler, soit de diriger un peu son développement. Et on s'est retrouvé emporté, nous tous, on a vécu ces expériences-là, on s'est vraiment retrouvé emporté, embarqué dans des histoires comme on l'avait été rarement dans le jeu vidéo depuis sa création. Donc il y a vraiment des choses. Et là, on a l'impression qu'on retombe en arrière. On retombe parce que on n'a pas ce transport. Et il y a en plus cette nouveauté de Détroit qui est cet affichage de l'arborescence qu'il y a à la fin de chaque niveau, où finalement, eh bien, on se rend compte que à Quantic Dream, j'ai eu l'impression qu'ils ont laissé tomber l'ambition d'immersion pour une ambition de complétion, c'est-à-dire que on va vous raconter une histoire, on va vous embarquer dedans, cette histoire va être folle et vous allez vous attacher au personnage et vous allez voir le dénouement va être dingue et il va y avoir une montée émotionnelle de choses. Et ben on vous dit, et ben vous avez choisi ça, vous êtes arrivé là, mais regardez, vous avez plein de choses qu'on a bien bossé. Alors déjà, il y a ce côté un peu, on vous montre tout le boulot et toutes les choses que vous n'avez pas vues. On vous montre tout ce que vous n'avez pas vu.
On montre pas tout. Il y a des choses qui restent grisées. On devine.
On montre rien de ce qu'on n'a pas vu. Il montre rien. Il montre que tous les embranchements grisés que donc qu'on ne verra pas si on ne rejoue pas au jeu. Et là, ça enchaîne sur ce que tu disais, sur la fin du jeu. Et donc, une des ambitions, parce qu'encore une fois, je veux juger Détroit sur son ambition première, et j'avais lu des interviews et des réactions de gens de Quantic, pas que de David Cage, mais qui étaient vous allez avoir des embranchements de fous, ça va être votre histoire unique à vous et tout ça, et puis il y en a des milliers possibles, il y a des milliers d'histoires possibles, mais chaque histoire sera unique, sera construite, vous transportera à sa propre manière, etc. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir raté mon histoire. Et ça, c'est...
Et ça, c'est, non... enfin, c'est
non,
normal.
C'est pas
mais
normal.
Moi
c'est
aussi,
pas
je vais pas d'ailleurs donner
non,
ma fin, mais...
Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que j'ai l'impression d'avoir raté le jeu. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que Détroit m'a proposé de me battre contre une histoire et pas me battre avec une histoire.
Non, ça dépend aussi de tes choix, de tes réactions. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai pas
mais
vu.
Mais pour moi, il y a pour, moi, côté pour moi mon histoire. Mais après, tu regardes la fin. T'es arrivé à la fin d'une histoire. T'as des conclusions un peu dans tous les sens, etc.
Mes
conclusions sont pas forcément mauvaises. Hein, d'ailleurs, mes personnages sont vivants. Enfin,
presque tous. Mais moi non.
mais après, je regarde ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu et en termes narratifs. Et ben moi, je suis désolé, dans mon histoire, il y a des erreurs de narration, des erreurs de scénario qui sont monumentales. Il y a, par exemple, je sais pas, ça se fait beaucoup dans les films ou dans les histoires, tu sais, au début du film, on zoome sur un objet dans une pièce. Mmh. C'est un petit détail, et forcément, ce détail aura une importance dans le déroulé de l'histoire. Sauf que moi, il y a des trucs qui reste en suspens. Il y a des trucs zoomés, il y a des détails. Il y a, par exemple, le drame de Hank.
Ouais.
Eh ben, j'en sais pas plus. Enfin, si, je sais à peu près de quel drame il s'agit, mais j'ai pas le détail du truc. Pour moi, c'est aberrant.
Peut-être que t'as pas fait ce qu'il fallait pour
c'est
creuser.
C'est pas le problème. C'est que mon scénario n'a pas cette structure.
Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que pour moi, ce jeu, il te pose aussi la question, encore une fois, du rapport du joueur à son jeu. C'est-à-dire que tu es le dramaturge aussi quand tu joues.
Non, parce que je n'ai pas eu le choix.
Non, car tu peux pas savoir quelle va être la conséquence de tes choix. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire?
Pour moi, je pense que c'est lié aussi à tes choix sur le comportement de tes personnages.
C'est un écueil de plein de jeux narratifs qui veulent soi-disant te donner des choix où on te dit alors tu vas à droite ou à gauche, sauf que tu sais pas ce qu'il y a derrière chaque porte. C'est impossible de savoir le futur. Ça, c'est vraiment un écueil des jeux narratifs. Et un jeu part comme ça avec des arborescences, à moins que ça ait été spécifiquement pensé. Il y a que très peu de jeux qui sont capables de le faire. C'est une erreur de jeu narratif, parce qu'en effet après ça donne le résultat de Dirwan, t'as l'impression d'avoir raté ton histoire, t'as l'impression d'avoir pris le mauvais croisement.
C'est marrant, moi je l'ai pas vu du tout sur le côté punitif comme ça.
Je donne un autre exemple, par exemple il y a un tag que les androïdes trouvent, voilà, c'est un truc répétitif avec, je vais pas donner, de toute façon on le rencontre très vite, RA9, c'est une sorte de tag
RA9
RA9.
RA9.
Je crois qu'en fait, j'ai l'impression que le jeu réussit quand même le tour de force. D'habitude, l'enjeu principal des jeux narratifs, c'est de préserver l'illusion du choix. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce jeu des trois, encore une fois, je précise, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que je les écoute beaucoup parler depuis tout à l'heure, mais j'ai regardé l'arborescence quand même, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choix et qu'il n'y a pas d'illusion du choix. Il y a des vrais choix avec des vraies fins différentes, ce qui demande normalement des moyens exponentiels pour être créés. C'est pour ça qu'on préfère ménager l'illusion du choix plutôt que de faire de vrais choix qui vont faire de vrais fin. Mais j'ai vraiment le sentiment que ton RA9 là, il l'a peut-être jamais vu parce que voilà,
ce que je veux dire c'est que
c'est peut-être pas aussi important.
J'ai fini mon histoire, donc j'ai fini mon histoire et on va revenir sur ce concept de fin, mais moi j'arrive au bout de mon histoire et je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ouais. Bien sûr.
Moi je suis désolé, tu me mets un scénario de film ou de bouquin avec cet élément là visuel et à la fin on te dit pas ce que c'est. Je suis désolé, tu pars frustré et moi je finis frustré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin de mon histoire, c'est pas la fin de Détroit. C'est-à-dire que la fin de mon histoire, l'ambition de Détroit n'est pas de raconter une histoire. Et c'est là le truc. C'est là pour moi l'erreur originelle de Détroit, c'est que normalement leur ambition est de raconter une histoire. Un jeu narratif, son ambition n'est pas est de raconter une histoire. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est un jeu où finalement le but n'est pas l'histoire. Le but est la complétion de l'arborescence.
Je pense pas que
faut vraiment que je te fasse jouer un jour à Zero Escape le deuxième, parce que c'est compléter l'arborescence, mais c'est designé pour ça.
Sauf que là, c'est pas designé pour ça, c'est pas pensé pour ça. Et c'est ça mon problème, c'est que on est censé te proposer l'histoire avec. Et c'est là où c'est la faiblesse par rapport à ce que le jeu vidéo a fait ces dernières années. Alors, je mets pas Telltale sur un podium et sur un piédestal.
Surtout, il faut pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que on sait très bien aujourd'hui que les choix de Telltale sont des faux choix, que grosso modo la trame narrative est la même. Sauf que putain, à la fin du la première saison de Walking Dead, t'as vécu une histoire avec l'impression d'avoir été au commande de quelque chose, pas forcément de choix, mais t'as
parce
pas.
On a tous vécu la même chose, c'est ça la différence.
Sauf que t'as pas un sentiment de frustration horrible à la fin et ce truc qui est je vais aller sur YouTube.
Non, pas YouTube. Non, 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 pas du tout. Non, j'ai pas.
Ah, mais moi, c'est ça. C'est.
Moi, c'est marrant, tu vois.
J'allais sur YouTube, j'ai regardé d'autres trucs pour. Mais sauf que j'ai même pas envie de le faire. Normalement, le contrat d'un jeu narratif, c'est t'arrives à la fin, t'as l'impression d'avoir influé quelque chose, d'avoir vécu ta propre histoire. Ça, c'est le contrat initial d'un jeu narratif, d'avoir vécu ta propre histoire. Sauf que t'arrives à la fin de l'histoire, t'es là,
j'ai rien. D'accord. Je suis d'accord sur un truc, c'est que ça peut être frustrant parfois d'avoir la sensation de louper un truc à cause d'une QTE ratée. Ça, par contre, ça peut vraiment être frustrant parce que tu vas louper une touche, là tu te dis mince, je suis en train d'enclencher un truc qui est pas bon alors que c'était pas ma volonté
ludique,
en termes de choix. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'ai pas ressenti du tout sur un côté punitif. Eh oh, t'as loupé ça. Au contraire, moi, je me suis senti responsable en tant presque de, ouais, encore une fois, de dramaturge, de dire c'est mon histoire et un peu comme des dimensions, des réalités parallèles. Ah, bah, il y aurait pu y avoir autre chose, mais j'ai pas forcément envie de visiter, moi, ces autres possibles. Moi, j'ai eu mon histoire, j'ai fini le jeu. J'ai une histoire qui me plaît pas forcément sur la fin, parce que j'ai perdu des personnages, je vais pas dire qui, mais j'en ai perdu. Et oui, je suis frustré d'avoir perdu des personnages. Peut-être que j'y reviendrai plus tard en me disant, bah, tiens, eux, je vais faire attention à tel ou tel moment où je vais avoir envie de questionner les mécaniques, hein, de questionner mon rapport, entre d'autres personnages et, enfin, certains duos du jeu, je vais essayer de les construire autrement, mais j'ai pas eu cette frustration. Moi, j'ai vraiment
la narration et l'immersion, pour moi, sont deux concepts intrinsèquement liés et c'est, on peut pas avoir de narration sans immersion. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses en Détroit qui détachent le joueur et la fin, qui est quand même la fin d'une histoire, c'est quand même pas le truc le moins important du monde. Et bah, t'es là En termes jeux vidéo, entre guillemets, mes personnages sont vivants, j'ai gagné une histoire, super. sauf que non, j'ai perdu parce que mon histoire est décevante et il y a plein de trucs, d'une part que j'aurais pas voulu faire comme ça parce qu'il y a un moment j'ai fait des choix qui m'ont semblé naturels et finalement ça a donné des conséquences qui sont complètement délirantes.
C'est les portes dont je te parlais.
Et en plus, je suis déçu. Mon histoire me plaît pas. Ne me plaît pas.
Bah, et j'ai l'impression.
En fait, mais non, mais alors, et voilà, et là on arrive au dernier truc, c'est que si la fin de Détroit, c'est pas la fin de ton histoire, et ben. Quand tu recommences Détroit, et ben là tu rentres dans une mécanique pure.
C'est pour ça que je vais prendre le lien tout de suite.
Tu es purement dans une mécanique. Je suis désolé, et on l'a déjà. Je pense que je l'avais déjà dit sur Beyond. Il n'y a pas de rerun sur un jeu narratif parce que justement, t'as plus d'immersion.
Si tu peux en faire.
Ah, Beck te dit.
Il faut
que ça soit fait pour.
Voilà. Sauf si c'est pensé pour.
Il faut. Genre là, c'est pas pensé. Tu me diras. Tu as eu l'impression d'avoir une bad end. Mais les bad ends, ça existe dans tous les jeux et. Enfin, pas.
Non, mais c'est pareil.
Ça existe dans beaucoup de jeux, pardon, et notamment dans plein de visual novel japonais, il y a des bad ends et on te dit recommence. Mais après, il y a des boutons avance rapide, tu vois ce que je veux dire? C'est fait pour être recommencé et on t'encourage à le faire.
Après, dans Détroit, il y a la possibilité de reprendre à des arborescences, etc. Mais par exemple, le rerun de Nier, c'était pensé
c'est
comme
pas
des
reruns. C'est pas des vrais reruns.
Bah oui, c'est parce que c'est la même histoire qui continue.
Mais il y a plein de jeux qui sont basés sur tu refais la même histoire, tu fais des choix différents et tu as des fins différentes et ces fins-là sont séparées les unes des autres.
Mais ça peut être pensé pour. Mais sauf que là, c'est pas pensé pour parce que tu perds tellement en recommençant ça. Tu perds l'attachement au personnage, ça devient des pantins. Alors oui, c'est des androïdes, mais ça devient carrément des trucs articulés. Enfin, et c'est là où j'ai un problème. Ça a été mon principal problème avec Détroit.
Moi, je pense que dans les jeux narratifs, comme tu dis, il y a eu en effet un changement. 2010, t'as dit pourquoi pour The Walking Dead à peu près, c'est ça?
Non, 2010, 2012, hein. 2010, c'est Heavy Rain.
C'est Heavy Rain, hein,
Et après, pour moi, le gros truc, c'était.
Mais je pense que il y a, pour moi. L'aspect personnalisé d'un aspect narratif, c'est un peu l'équivalent de la 3D pour les graphismes, c'est gadget quoi. En vrai, c'est pas la narration est faite pour être maîtrisée, elle est faite pour être amenée, d'être craftée, être faite de manière bien. Alors après, tu peux créer des systèmes pour que, même si c'est le joueur qui fait ses choix et que ça fait des choix qui ont des conséquences assez diverses, ça puisse être dans chaque cas bien crafté à la fin, que tu aies une histoire qui tienne debout sans plot hole. Parce que s'il y a des plot holes dans ton histoire, Erwan, je suis d'accord avec toi, ça veut dire que toute ta branche n'aurait même pas eu lieu d'être. Ou ou alors il aurait fallu je sais pas, rajouter des éléments à la fin, genre ce que vous avez raté et expliquer quand même, bon vous n'avez pas vu ça à cause du truc, mais je vous dis quand même ce qui s'est passé à côté pendant ce temps là tel personnage que vous n'avez pas vu a fait tel truc ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'est une chimère, sauf pour la plupart des studios, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous faites une arborescence, à chaque choix vous multipliez le nombre d'outcomes qu'il va falloir gérer ensuite d'un point de vue de production, d'un point de vue d'écriture, d'un point de vue de voice acting et compagnie. C'est du boulot, donc normalement c'est pas possible de le faire. Sauf que là où tous les autres studios sont dit bon, on va faire autrement, on va trouver des solutions pour éviter ce problème là parce que c'est une impasse, c'est clairement une impasse. On va pas pouvoir faire un jeu aux multiples aux conséquences avec des centaines de fins différentes et tout à fait différentes, c'est pas possible, il y a trop de travail. Mais Quantic Dreams, eux, non. Ils se sont dit, tiens, on va quand même pousser le vieux jusqu'au bout, prendre le taureau par les cornes et faire un tour de force. Et c'est un tour de force, à mon sens.
Ah non, mais ça l'est, techniquement. Ça encore, reste... encore une fois, on a l'impression d'être face à un objet artisanal de fou, quoi. Enfin, c'est monstrueux, c'est une construction.
Artisanal, c'est plus artisanal, quoi, à ce niveau-là.
Hein. En attendant, c'est les seuls à le faire, je trouve.
Non, mais c'est fait à la main.
C'est tellement. Mais moi,
si, c'est dans le sens artisanal, c'est fait à la main, tu vois. C'est comme une énorme statue.
C'est le seul moyen, si tu veux faire des jeux narratifs avec vraiment c'est ton histoire, vraiment c'est ton histoire, il y a tant de fins différentes, c'est ton histoire et pas des fins genre Jean-Michel porte une chemise bleue au lieu d'une chemise rouge, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça une vraie fin. C'est-à-dire, quand t'as je sais pas combien de fins il y a, ils ont donné le nombre de fins différentes,
ça je sais pas, non,
bref,
j'ai pas forcément envie de le savoir
mais il faut, du coup moi je vois Heavy Rain à la fois comme un truc complètement stupide et complètement courageux, tu vois ce que je veux dire, c'est un machin mais
excuse-moi
Detroit, tu vois, bah tu me dis que ça ressemble alors, finalement. Mais je vois Detroit comme un objet narratif super intéressant pour voir
en tout cas
pourquoi il ne faut pas aller dans cette direction là et d'autant plus que pour moi cette narration là, et là on parle plutôt dans la nature de la narration, elle est vouée à l'échec. Le jeu vidéo devrait encore une fois se concentrer sur les points sur lesquels il est fort, à savoir le gameplay pour servir la narration et faire une bonne narration derrière. La narration est la fin, le gameplay est le moyen. Et encore une fois, j'ai pas l'impression que Detroit soit particulièrement plaisant à jouer. Et
c'était Edith Finch, hein, voilà, le gameplay, la narration.
Donc, si ton jeu peut être diffusé sur YouTube ou peut être diffusé au cinéma, comme apparemment ça a été le cas pour la. Fais un film, voilà, c'est tout. Utilise la spécificité du média.
T'as des choix à faire quand même.
C'est l'équivalent pour moi des jeux comme Heavy Rain, Detroit et compagnie. Et encore une fois, j'ai pas joué, je répète, donc je critique pas la narration ou quoi que ce soit. Ça se trouve, je vais adorer Detroit. Mais pour moi, des jeux comme Detroit ou Heavy Rain, c'est l'équivalent que de diffuser des plans fixes de théâtre au cinéma. C'est la même chose. On baisse de dimension dans un média qui est de plus en plus complexe.
D'accord, parce que moi, je suis pas d'accord. Moi, je vous rejoins sur le côté une fin ne donne pas la fin absolue au jeu, et c'est aussi le principe. Moi, j'ai pas eu cette frustration. Encore une fois, je me suis senti responsabilisé. Je me suis dit, c'est ma fin, ce sont mes choix. J'ai vraiment eu la sensation que les choix que j'avais fait à certains moments avaient impacté sur la destinée de mes personnages.
Ah, bien sûr.
Alors peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas, mais j'ai pas eu cette sensation qu'on volait une fin ou je ne sais quoi.
T'as peut-être eu de la chance d'avoir une bonne fin aussi.
Aujourd'hui, depuis ça fait 5 ans que dès que je lance un tel, j'ai l'impression de pas être aux commandes. J'ai l'impression de voir les artifices, là j'ai pas eu la sensation de voir justement, j'ai eu l'impression que les mécaniques m'échappaient. Et ça m'a plu. J'ai eu l'impression que les mécaniques de choix, d'embranchement, ils étaient pas si clairs que ça. Et ça m'a plu. J'ai trouvé qu'au contraire, alors qu'un tel aujourd'hui avec les petits reminders, vous a entendu, ça va.
Comment tu peux avoir un choix s'il n'est pas éclairé? Comment tu peux être soi-disant maître de ta destinée si tu sais pas ce qui est le moins tes conséquences?
Mais dans
tes actes,
ça ne marche pas.
C'est évident, mais c'est le booby trap classique dans ce genre de jeu narratif. C'est genre tu fais une bonne action qui t'explose à la gueule une heure plus tard.
Dans Telltale, ça fait longtemps que ça marche plus.
Bah oui, mais pourquoi on continue à le faire.
Oui, non, mais ça a marché parce que c'est eux qui ont permis d'autres jeux d'arriver, que ce soit Firewatch, Oxenfree et ce genre de choses.
Tu me parles d'expérience filmique, à la limite, The Walking Dead saison 1 est beaucoup plus. Lui aussi, il peut se mettre sur YouTube quelque part parce que sa force, elle est aussi dans les personnages. Elle est pas dans l'interactivité.
Et c'est là où je rejoins Corentin. Mais si on regarde Walking Dead saison 1 sur YouTube, on perd tout. C'est-à-dire que Walking Dead saison 1, quand on la joue, Il y a une immersion, on est tous d'accord là-dessus.
Puis j'ai le sentiment aussi qu'avec un jeu comme des jeux purement narratifs, je pense qu'il y a aussi une différence. C'est pour ça qu'Arwan n'a pas trop aimé Détroit, c'est aussi sur la qualité narrative, ce genre de choses.
Je pense
que si le jeu avait été mieux écrit, ou enfin plus à ton goût niveau écriture, plus à ton goût niveau narratif, tu aurais peut-être été plus sympa avec le jeu aussi.
Quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, si c'est le panier troué, voilà quoi.
Bref, moi j'irais pas jusque là. Je trouve que c'est un peu fort quand même, les personnages sont attachants, encore une fois, moi je juge pas, c'est très personnel. Je pense qu'on est sur quelque chose de très subjectif aussi. On a chacun notre parti, on a chacun fait nos choix, on a chacun aussi nos affects à des univers, à notre bagage quand on arrive sur un jeu comme ça.
Mais encore une fois, je renie pas le tour de force. Moi, je suis impressionné par Détroit. C'est vraiment un jeu. Ah oui, les mecs, en fait, ils ont vu la voie, ils ont dit alors, faut pas aller par là. Et les mecs, ils ont dit si, on va aller par là, mais de ouf et avec panache.
C'est courageux.
Et je trouve ça intéressant. Je suis content qu'un jeu comme ça existe.
Je trouve qu'il picore des trucs de Arkham. Il y a des choses aussi de Sherlock Holmes, dans les phases où on voit, on avance, tu zoomes sur des indices, tout ça. Bon, on l'a vu dans d'autres jeux. Tout ça est imbriqué ici. Mais on sent qu'ils ont voulu, voilà, imbriquer pas mal de choses et du coup varier aussi les rapports à l'environnement, au jeu, etc. Moi, j'ai tendance à toujours en voir dans ces titres des lointains parents du point and click. Alors même si évidemment ici on n'a plus du tout d'énigmes, on n'a plus de gestion d'inventaire, on n'est plus sur ces problématiques-là. Là, on a plus quelque chose, encore une fois, à l'environnement. On dirige ces personnages qui nous sont étrangers finalement. Pour moi, on est vraiment un metteur en scène dans ces jeux-là.
Non. Et
là,
on est. Mais plus... le metteur en scène, il sait où il va, alors que le joueur, il ne sait pas où il va. Et là, c'est ça la différence.
Et là, on est plus sur ces chasses aux pixels ou ces choses qu'on peut avoir dans des point and click rétro ou autres. On est plus sur de la chasse à l'interaction dans les décors, à trouver des moyens de voilà, des raccords, des choses qui vont permettre d'ouvrir encore un embranchement différent. Moi, je trouve ça intéressant. Et je trouve ça, encore une fois, je trouve ça osé de lancer ça. Et d'offrir ce champ de possibles. Moi, je trouve ça vertigineux quand on lance une partie.
Mais c'est intéressant sur ce que tu dis sur le fait de se sentir réalisateur du truc ou de diriger le truc. Moi, je trouve justement qu'on perd cette capacité. J'avais trouvé que cette capacité avait été brillante dans un jeu comme Oxenfree, par exemple. On choisissait la personnalité de nos personnages est-ce qu'elle était cynique, est-ce qu'elle était dans le sarcasme, dans l'agressivité, dans la gentillesse, dans ce genre de choses. Et là, en gérant ces dialogues en même temps que le personnage bougeait, interagissait, tout ça.
Surtout même d'un point de vue de la manipulation des dialogues et du design général de comment on interagit avec les personnages, c'était brillant. Parce que tu pouvais le couper. Alors moi, je suis Oxenfree, ça m'a pas trop touché, mais j'ai apprécié ce système tu peux interrompre les gens. Ouais. Tu peux vraiment leur dire non, ta gueule, ça m'a de parler.
Non mais
c'est très drôle.
Non mais c'était sur voilà, j'ai l'impression que justement le jeu vidéo a réussi à donner la main sur des éléments de mise en scène, de direction de ce qui se passe à l'écran et garder une cohérence absolue sur le scénario. Malheureusement, je sens bien qu'on aurait pu en faire deux émissions.
J'aime beaucoup, par exemple, le Connor que j'ai manipulé dans le jeu. J'aime beaucoup ce que j'ai fait de Connor. Voilà.
Ouais, mais sauf que là, tu sens que c'est ultra binaire. Connor est ultra binaire.
J'ai eu des hésitations.
Les deux personnages, il y a deux personnages qui sont binaires, c'est-à-dire tu vas dans une direction ou dans l'autre, Connor et Marcus. À chaque fois, tu as deux grands choix. Et à toi de... Mais finalement, voilà, tu sens que c'est quand même limité. Et peu importe,
ça a marché. J'étais dans le truc, tant mieux, j'ai vraiment marché dans le truc. Et je trouve que le personnage, moi, m'a plu. Enfin, la façon dont je l'ai...
Bref.
Fait évoluer.
Non, mais je pense, voilà, on a été assez clair. On va quand même finir. Oui, je sais, on a déjà dépassé l'heure d'enregistrement.
Là, on est largement.
Oui, voilà, l'heure 10 d'enregistrement, oui, même. Mais on va quand même parler de Stay Safe. Donc à chaque fois que vous avez entendu une basse dans cette musique, c'est qu'on s'est planté. C'est qu'on se prend un obstacle. Car Stay Safe, c'est une course futuriste. Façon quoi ? Façon Wipeout un peu. Dans la construction. Et il faut éviter des obstacles. J'ai résumé ?
Oui, voilà. Donc on n'est pas sur un jeu de course à la F-Zero où on doit finir le premier ou ce genre de choses. Hein. On est sur un jeu de course futuriste en FM, mais plus sur un côté die and retry, presque platformer finalement. Ouais. Parce que le but, c'est d'arriver au bout des 75 courses, je crois, qui sont disponibles dans le jeu. Donc, c'est un jeu français hein, développé par Atomic Raccoon Studios avec à la tête, tête de ce studio, et ça, je trouve ça formidable, Édouard Philippe. Et oui, notre Premier ministre, évidemment.
Il le met
dans son presse-kit, il fait Prime Minister Coder of France, très rigolo. Donc voilà, c'est un homonyme, c'est plutôt rigolo. Donc voilà, c'est un jeu avec un look très futuriste, très néon, très violet, jaune, voilà. On évolue dans des mondes fluo avec des déserts, donc dans son petit vaisseau, le petit vaisseau futuriste le plus fragile au monde. Et oui, car dès que vous prenez le moindre mur, dès que vous rayez la carrosserie, votre vaisseau, il explose. Donc voilà, il faut faire très attention. Et évidemment, les parcours qu'on va sélectionner, ce n'est pas la petite sinécure sympathique. Hein. Bien sûr, c'est des parcours remplis d'obstacles divers et variés, tels Erwan les adore, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des roues géantes avec des trous, il faut passer dedans, des boules, des cubes qui avancent, qui reculent,
Pourquoi tu prends un accent ?
Je sais pas, j'avais envie de donner un petit côté grillon chantant, un peu pour détendre l'atmosphère après. En fait, dès que je dois avoir un deuxième personnage qui doit parler à ma place, ça prend l'accent, je sais pas pourquoi. J'aime bien, je dois avoir un côté du sud au fond de moi-même. Bref, donc on a plein de petits éléments en fait qui vont s'intégrer au fur et à mesure des courses. Donc au début, voilà, ça va être simplement des portes qui bougent pas, puis après les portes vont commencer à bouger, puis après il y a des cubes, puis après les cubes vont commencer à bouger, puis après il y aura des boules, etc. Donc il y a une montée.
Après, il y a des obstacles qui te suivent, qui veulent être en face de toi, tu vois, tu bouges et ils bougent avec toi.
Après, il y a des zones. Si tu restes plus de 4 secondes, tu exploses. Si tu n'as pas appuyé sur une plateforme pour réinitialiser le compteur, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça. Donc, c'est vraiment une espèce de... une galerie d'obstacles et de courses qui durent en général pas très longtemps. Hein. Ça dure quoi ? Une minute, hein, même pas 40 secondes. Je crois qu'ils présentent ça genre 40 secondes. Mais
la durée d'une course réussie ?
Ouais.
25 secondes.
Ah
ouais, 25 secondes.
Même pas 40 secondes.
Le nombre de morts pour réussir une course, 120.
Alors, voilà... C'est
à partir du niveau 22, 23.
Après, il y a des courses plus longues que d'autres, évidemment, mais il y en a qui peuvent être très très courtes avec un obstacle très très compliqué. Et évidemment, le jeu, après, il y a un petit. Donc, c'est du die and retry, on recommence immédiatement. On peut, d'un simple coup de bouton, on retourne au début. Le vaisseau est assez maniable, on le contrôle donc soit qu'au stick et il se déplace comme un vaisseau classique. Vous pouvez aussi utiliser les gâchettes pour faire des petites roulades sur les côtés, hein, un petit peu comme des barrel rolls, hein, d'une certaine manière, pour passer rapidement tout en gardant son angle en fait, hein. Donc ça permet de passer de gauche droite quand
c'est le plus important à maîtriser. Enfin,
c'est le plus important à maîtriser, absolument. Vous avez l'accélérateur, donc qui vous permet de grosso modo d'avoir deux vitesses différentes, rapide et très rapide, hein, grosso modo, pour jauger votre vitesse. Parfois, quand vous avez des timings de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, ça peut être intéressant de ralentir un peu pour redémarrer, pour être sur le bon créneau, le bon moment où la porte va se baisser. Là, vous passez d'un seul coup et c'est parfait. Et c'est déjà pas mal. Et vous avez un peu de air control aussi qui peut être intéressant. Il va falloir jouer avec pour parfois, vous avez des phases entières où vous volez dans un tube, vous planez en fait, vous retombez, vous finissez toujours par retomber, mais vous ne devez pas toucher les murs, ça peut être assez difficile et frustrant le jeu.
C'est pas frustrant en fait, c'est le mauvais mot. Il est tout sauf frustrant.
Comme d'habitude avec ce genre de jeu, en fait, il est frustrant, mais cette frustration est immédiatement évacuée par le fait qu'on redémarre immédiatement la partie. À la Super Meat Boy, on sort toujours ce jeu, mais c'est vrai, on redémarre immédiatement. On n'a pas le temps de souffler, c'est-à-dire que dès qu'on est frustré, paf, on met toute cette frustration dans la tentative suivante et ça va immédiatement mieux. Puis on est frustré, puis on recommence et on est à 120 vies. Comment ça, il est 4h du matin. Bref, ce genre de choses. Et c'est plutôt chouette parce que le jeu en fait est juste avec vous. Il y a assez peu de problèmes. On peut noter quand même, alors le jeu est sorti très récemment de sa version bêta, mais quelques collisions un peu injustes par moment, donc des hitbox un peu plus larges que les cubes qu'on vous propose, notamment dans les décors hors course. Il y a par moment, pour aller chercher des petits collectibles, hein, il y a des capsules, il y a une capsule à récupérer dans chaque niveau. On va vous demander de faire un petit peu de hors-piste et d'aller sortir de la course pour faire planer un petit peu grâce à une bosse comme ça et puis retomber. Sauf que le bâtiment en question, il a une hitbox plus large que ce qui est affiché, vous explosez dans le vide, alors vous êtes un petit peu
Compatible VR ou pas ?
Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour toi.
Ah bah si, justement. Là, vous me le vendez pour la VR.
Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Peut-être un jour, je ne sais pas. Mais voilà.
Non, mais ceci dit, une VR façon Rez, tu sais, cette VR extérieure, ça pourrait marcher, je pense.
Alors évidemment, le jeu peut être vu d'un point de vue, bon, je vais finir tous les niveaux, ça c'est évident. Alors après, il y a le classique, on va être jugé sur plusieurs critères. Évidemment, le speedrun, donc celui qui est le plus rapide va arriver sur un classement. Alors il me semble, hein, mais j'ai peur de dire une bêtise, qu'il y a deux classements différents. C'est si vous avez récupéré la capsule, si vous n'avez pas récupéré la capsule. Je trouve ça plutôt logique, puisque parfois la capsule vous demande de faire le double du circuit. Il y a un exemple de capsule où en fait, au lieu d'aller à l'arrivée, il faut sauter par-dessus l'arrivée, récupérer la capsule et refaire un tour. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai même fait 4 tours parce que j'arrivais jamais à choper la capsule, mais je m'aurais pas non plus. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. Mais vous êtes aussi noté sur le nombre de dash que vous faites pendant la partie. Donc vous êtes plutôt encouragé à essayer d'aller dans l'économie. C'est plutôt intéressant. Vous êtes aussi notez sur le pourcentage de temps sur lequel vous allez garder l'accélérateur poussé, donc de 100% à 0%. 0% si vous n'avez jamais appuyé sur l'accélérateur, 100% si vous avez fait qu'appuyer sur l'accélérateur. Et par moments, c'est fait pour être vraiment appuyé sur le champignon tout le temps, donc c'est plutôt intéressant. Et évidemment, la fameuse capsule qu'on peut récupérer ou non, quoi. Et en fait, donc on aura trois environnements différents et avec des niveaux à débloquer. Et ces niveaux vont se débloquer si vous avez réussi suffisamment de niveaux sans faire aucun dash, si vous avez réussi suffisamment de niveaux en ayant 100% d'accélération, si vous avez récupéré suffisamment de capsules, si vous avez réussi tous les niveaux normaux, etc. etc. Donc c'est plutôt chouette d'avoir comme ça une variété dans les challenges qu'on nous donne et plutôt bien intégré dans un jeu qui pourrait être assez répétitif finalement, évidemment hormis le level design qui est bien foutu, qui est agréable à jouer et tout ça. Donc je recommande plutôt Stay Safe si vous aimez les jeux de course futuristes et les jeux on va dire de ce qu'on appelle de die and retry, donc les jeux
c'est pur ça. Voilà, on est pas dans Céleste, mais c'est ce genre de choses, c'est à dire que c'est en plus avec la capsule un peu optionnelle, moi ça m'a rappelé les fraises, mais on est dans ce même système, c'est-à-dire il faut apprendre un niveau par cœur, des patterns, des choses comme ça pour réussir à s'en sortir. Il y a des obstacles moi qui m'ont mis un peu vénère plus que d'autres.
Les fameuses portes. Donc vous avez des duos de portes en fait qui alternent comme
non,
ça.
Non mais ça va parce qu'il suffit juste d'apprendre. Si je reste en boost, au moins il a été sympa, il a mis la même rythmique, c'est-à-dire que si ça reste en boost, on sait qu'il faut passer droite droite gauche droite droite, etc.
Voilà, c'est ça.
Sauf qu'il y a certains niveaux où en fait on est sur une single track et il y a une porte qui se lève et qui se baisse. Donc si on arrive au moment où elle se lève,
on peut pas s'arrêter.
On peut pas s'arrêter.
Il y a une vitesse minimum, tu peux pas t'arrêter.
Il faut jouer sur le boost et pas boost pour arriver au bon moment. Et là, ça commence à être un apprentissage. Et c'est malin. Ça m'énerve comme ça énerve un joueur de Die and Retry. C'est logique que ça m'énerve. C'est fait pour m'énerver. Mais à la fin, tu finis le niveau, t'es content.
Il est vénère, Erwan, cette semaine.
Et tu vénères.
Très vénère.
Oh non, il est
pas du tout.
Il est vénère.
Il a bien aimé. Mais voilà, donc c'est un jeu à challenge. Essayez de savoir où vous mettez les pieds avant d'y aller. Mais voilà, si vous avez aimé des jeux, donc évidemment les jeux de course futuristes, mais aussi des trucs comme Audio Surf, ça pourrait vraiment être votre cam. Audio Surf, moins le côté rythmique évidemment, bien qu'il y ait une rythmique à apprendre par cœur, mais en tout cas c'est sympa. Les musiques sont cool, c'est de la comment on appelle ça, la synthwave classique comme on peut en entendre dans du Fury ou dans des trucs comme ça. Donc non chouette boulot, bravo. J'espère, j'ai le sentiment que le jeu a pas trop de succès, j'espère quand même qu'il saura trouver son public à un moment donné, peut-être avec une sortie sur Switch.
J'ai des scores beaucoup trop hauts dans le ladder pour que jeu ait du succès. Peut-être
c'est louche. C'est louche.
Chers auditeurs de Science on Joue, il y a encore des places au-dessus de moi dans le ladder. Vous pouvez y aller. Vous pouvez être très haut dans un ladder de jeux sur Steam. C'est déjà rien que pour ça.
Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui mérite le coup d'œil. Si vous aimez ce genre-là, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment plaisant. Vous n'allez pas du tout regretter. Il n'y a rien de raté dans ce jeu-là. Et le but est atteint. Voilà, c'est un jeu où le but est atteint. Donc foncez. Voilà, ça coûte 16,79€. Pourquoi ce prix? Je ne sais pas. Et c'est sorti depuis le 22 mai.
Eh bien, merci à tous les deux. On a fait évidemment. Depuis qu'on est au croissant, on fait long. Je sais pas si c'est le lieu qui doit faire ça. On aime
on
bien.
Est cosy, là,
on est bien, on est bien. Donc pourquoi s'arrêter mais vous n'allez pas quand même échapper à la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Alors moi j'ai vu Han Solo, le Star Wars spin-off qui fait visiblement un four que je trouve pas du tout mérité en fait. Je m'attendais à une plaie absolue vu les critiques qui étaient tombées. Et c'est, enfin, pour moi, c'est assez symptomatique de l'emballement autour de Star Wars. C'est-à-dire que c'est pas le film du siècle, on est d'accord. C'est un honnête western, film d'action un peu à l'ancienne, un peu rétro en fait, un peu vintage. Pas désagréable du tout. Et puis, je trouve voilà, que la façon où il s'est fait dézinguer, qu'il s'est fait critiquer dans tous les sens, et visiblement ses mauvaises performances ne sont pas forcément justifiées.
Donc, je crois qu'il avait un passif avant même de sortir.
Oui, bien sûr. Il a une prod très compliquée avec Ron Howard qui arrivait en renfort après deux réalisateurs qui sont sortis. Donc, ouais, il était un peu attendu au tournant. Et je trouve qu'il se fait un peu lyncher de façon injuste. Mais bon, c'est mon point de vue.
Corentin,
bonjour. Du coup,
non mais j'ai pas d'avis sur Han Solo. Voilà.
T'as décroché Star Wars.
Ah, j'ai complètement décroché. Longtemps.
Alors moi, je vais parler manga, tiens, encore des japonaiseries, c'est terrible. J'ai repris Bright Stories. Donc Bright Stories, c'est par Kaoru Mori. C'est édité chez Kiyun et c'est l'histoire, on va dire, ou plutôt les histoires de personnes qui habitaient en Asie centrale, donc l'équivalent du Kyrgyzstan ou de l'Ouzbékistan actuel, en tout cas sur la route de la soie au 19e siècle. Et donc on va suivre notamment un jeune couple, Amir et Karluk, hein, Amir 12 ans. Qui se marie avec Karluk, qui doit en avoir 20 ou quelque chose comme ça, parce que à cette époque-là, on faisait les mariages claniques pour réconcilier les familles entre elles ou pour faire des partenariats de biens et tout ça. Il se trouve que tant mieux, c'est un mariage d'amour aussi, celui-là, il s'apprécie, il s'aime beaucoup, mais on va aussi suivre après Monsieur Smith. Et Monsieur Smith, c'est un personnage très intéressant puisque c'est un Anglais. Et lui, il a un petit...
Anglais sont intéressants.
Il a un petit côté anthropologique, on va dire, ce Monsieur Smith, il est là, il prend des notes, c'est ça vos coutumes, c'est super, il observe les vêtements et on est là avec lui et on observe, c'est quand même des jolis vêtements, les vêtements de cette époque à cet endroit, ah là là, ces coutumes étonnantes, il y a quelque chose de très intéressant, de très historico-culturel, sauf que Monsieur Smith, il va commencer à partir, il va retourner du côté de la Turquie, il va faire une épopée comme ça, il va traverser un petit peu des zones, il va traverser des villages, rencontrer des personnages et on va se rendre compte que derrière, on va dire peut-être ce panorama historique d'Asie centrale, eh bien se cachent des enjeux politiques plus intéressants qu'il n'y paraît, notamment ce qu'on appelle le grand jeu. Le grand jeu, en fait, c'est le petit jeu d'échecs que jouaient de manière tout à fait amicale la Russie et l'Angleterre sur cette zone-là, en plaçant des espions, en essayant de grignoter des terres, en gagnant des influences avec des clans influents du coin. Et donc, par des petites histoires, par ce qu'on appelle dans le milieu du manga des tranches de vie, donc vraiment des passages tout à fait banals de la vie quotidienne des gens, on va découvrir finalement une époque qu'on connaît assez peu et assez dingue, avec des enjeux peut-être plus grands qu'on l'imagine. Donc je vous recommande, ça s'appelle Bright Stories, et le tome 10 est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà.
D'accord. Alors en fait, j'ai juste peur d'en avoir déjà parlé, mais moi c'est une lecture, tout ce que nous ne savons pas encore, hein, le guide de l'univers inconnu. C'est un livre traduit de l'anglais.
Très épais comme bouquin.
De deux Américains, ouais. Non mais c'est, alors, en fait, on se rend compte que pour savoir ce qu'on ne sait pas, il faut déjà savoir tout ce qu'on sait déjà.
C'est vrai. Après tout, la quantité de connaissances qu'il y a dans l'univers moins ce qu'on sait, c'est ce qui reste.
Mais en fait, donc ça parle de, alors c'est un gros bouquin. Alors c'est illustré par l'auteur de PhD Comics, donc qui est un auteur de webcomics, hein, qui est scientifique. C'est plutôt pas mal. C'est assez drôle. Moi, ça a écrit d'une manière très sympathique et surtout c'est plein de mystères sur la matière noire, l'énergie noire, les particules qui bombardent la Terre, le temps, l'espace. Évidemment, est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? Est-ce que la question est valide?
Avant le Big Bang. Wow.
Non, mais c'est tout ce genre de questions. Vraiment bien expliqué. C'est de la vulgarisation. Alors, les gens qui sont habitués à la vulgarisation scientifique apprendront peut-être pas grand-chose, quoique. Mais c'est super agréable à lire. C'est vraiment une bonne manière d'appréhender la vulgarisation, c'est-à-dire, on va vous expliquer tout ce qu'on sait déjà, mais en vous parlant de ce qu'on ne sait pas, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est chez Flammarion et...
C'est en français, du coup.
Et c'est en français. Cool. Donc, en anglais, le titre anglais, c'est « We have no idea ». Et nous, c'est tout ce qu'on ne nous savons pas encore, le guide de l'univers inconnu.
On n'est pas capable de faire des titres courts comme eux. Il était chouette.
Il était chouette, mais c'était peut-être pas assez explicite. C'est fini pour cette semaine. Merci à tous les deux. Et on se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.